Les amis, pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Nous sommes ensemble pour deux heures, attention au départ et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 5 janvier avec le journal de Sébastien Legenie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec un Premier ministre.
Un Premier ministre qui assume les propos du président Jean Castex devant les parlementaires aujourd'hui et qui prend lui aussi pour cible les non-vaccinés que le chef de l'État a promis d'emmerder. Face à face musclé avec l'opposition, nous serons au Palais Bourbon dans un instant. Les médecins partagés, eux, après la sortie très clivante d'Emmanuel Macron, mal à l'aise avec l'expression, mais conscient qu'il faut aussi mettre la pression pour sortir de la pandémie. On l'entendra. À suivre aussi la fatigue des Français face aux règles sanitaires et notamment au port du masque. Reportage dans les rues de Paris. Le géant automobile Stellantis qui s'associe avec Amazon pour la voiture connectée du futur. La tension qui monte au Kazakhstan où des manifestants protestent violemment contre les prix de gaz. Et puis les musées et les monuments nationaux qui retrouvent progressivement leur public.
À 18h15, un jour dans le monde, un an après le 6 janvier, faut-il s'inquiéter de l'état de la démocratie américaine? Qu'est-ce qui empêche un autre 6 janvier après les midterms? Pourquoi la réconciliation nationale voulue par Biden a échoué? C'est tout cela que nous verrons avec François Hesbourg qui est notre premier invité. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Janvier sans alcool, alors est-ce que ça vous tente ou pas au pays du vin qui est le nôtre? Ce mois d'abstinence est diversement accueilli et vécu, mais comptez-vous essayer de jauger votre consommation? C'est à ça que ça sert théoriquement. Jauger à quoi ressemble votre alcool social? Aussi, on en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand un mot déclenche donc une tornade politique.
Depuis ce matin, oui, les réactions politiques n'ont pas cessé après l'interview du président de la République à nos confrères du Parisien dans laquelle il dit avoir envie d'emmerder les non-vaccinés. Propos insultants, clivants, méprisants, irresponsables, l'opposition hurle son indignation et en face, l'exécutif fait bloc, exemple avec Gabriel Attal. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui, interroge le porte-parole du gouvernement. Qui gâche la vie de nos soignants, poursuit-il. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. C'est maintenant au tour du premier des ministres de monter au créneau. Jean Castex était au Sénat cet après-midi, fustigeait une infime minorité qui fracture la nation, je cite. Jean Castex ensuite à l'Assemblée nationale où les débats ont repris sur le pass vaccinal. Bonsoir Adrien Serrière.
Bonsoir.
En direct du Palais Bourbon, un premier ministre dans la tempête et qui évite soigneusement de revenir sur les mots qui fâchent.
Oui, Jean Castex était attendu de pied ferme par une assemblée qui avait réclamé sa venue. Une assemblée profondément marquée par les mots d'Emmanuel Macron. Emmerdé et d'ailleurs revenu dans de nombreuses voix, lâché à tout bout de champ par les oppositions. Chaque président de groupe a pris la parole, apostrophant chacun à sa manière Jean Castex. Prié d'expliquer ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron. Regrettez-vous? Assumez-vous? Lui a-t-on demandé. Excusez-vous? Demande même la députée insoumise Mathilde Panot.
Excusez-vous pour ces propos absolument indignes du président de la République qui ont été tenus. Excusez-vous parce que pendant ce quinquennat, vous avez déjà qualifié les Français de rien, de feignants, de gaulois réfractaires, de ceux qui coûtent un pognon de dingue, de ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un emploi.
Dans cette assemblée prête à en découdre, Jean Castex s'est lui-même montré très offensif. Le Premier ministre assume le projet de loi, mais il a bien évité de revenir sur les mots du président.
Il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Bien sûr, ce n'est insulter personne, c'est la réalité qu'a voulu rappeler le président de la République. C'est une réalité.
Jean Castex a fini son intervention sous les applaudissements nourris de la majorité et les huées de l'opposition. Après cet épisode, le travail législatif a repris. Plus de 400 amendements restent à étudier. La séance devrait se prolonger jusque tard dans la nuit.
Adrien Serrière en direct du Palais Bourbon avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques. On le disait, plus de 400 amendements encore à discuter. Le gouvernement a par ailleurs exclu à ce stade de passer en force avec l'usage de l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans vote. Le gouvernement qui a aussi communiqué les derniers chiffres des contaminations, 335 000 cas pour les dernières 24 heures. Au-delà des indignations du monde politique, qu'en pensent les premiers concernés des propos du président? Pas les non-vaccinés eux-mêmes, mais les médecins qui les soignent, les réanimateurs en première ligne, dont les services sont souvent au bord de la saturation. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir.
On va dire que ces réanimateurs sont tiraillés entre le fond et la forme.
Oui, la vulgarité d'Emmanuel Macron met mal à l'aise. Le vocabulaire est jugé inapproprié, même si pour Jean-Michel Constantin, secrétaire général de la Société française d'anesthésie et de réanimation, le pass vaccinal et les mesures contraignantes sont désormais les seuls moyens de convaincre les récalcitrants.
Il faut mettre une pression, mais une pression de dingue sous les non-vaccinés, parce que ce sont eux qui bloquent le système. Et donc, effectivement, qu'on mette toute la pression sur eux pour que le fait d'être non-vacciné devienne difficile à supporter, c'est un but, parce que c'est la seule façon de desserrer la pression sur les hôpitaux et de diminuer le nombre de morts du Covid.
Contraindre, oui. Être grossier, non. Cela peut même être contre-productif, prévient le professeur.
Il ne faudrait pas que ça braque ceux qui sont dans le doute, ceux qui ont encore peur, parce que je pense que cela, avec encore de la pédagogie, on peut les amener à la vaccination, ce qui serait la meilleure solution pour tout le monde.
Et pour Arnaud Chiche, réanimateur et fondateur du collectif Santé en danger, les propos du président de la République sont clivants et éloignent du vrai débat.
En dehors des vagues Covid, on est aussi en France en situation quasiment chronique de déprogrammation chirurgicale par manque de ressources médicales. Le plus grand cynisme d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de ne pas annoncer aux soignants et à la population française qu'on ne démarre pas un grand plan santé.
Et pour rappel, près de 90% de la population éligible est vaccinée.
Alice Cachaner, merci du service santé de France Inter. S'il est un endroit en France où les propos du président prennent un relief particulier, c'est en Guadeloupe où seule une minorité d'habitants est vaccinée, avec des antivax de plus en plus agressifs contre les soignants. Le patron du CHU de Pointe-à-Pitre a ainsi dû être exfiltré par la police. Hier, ses bureaux assiégés, lui-même frappé à la tête, inconscient pendant une dizaine de minutes. Il explique ce soir qu'il va continuer de travailler, mais à distance, le temps que l'hôpital soit mieux sécurisé.
Vaccinés ou non, les Français sont tous épuisés par cette pandémie qui n'en finit pas.
Oui, 5 vagues, 3 rappels de vaccins ou plus, un pass sanitaire à montrer au restaurant, des classes qui ferment, le retour du masque désormais dans la rue. Bref, après s'être plié plus ou moins de bonne grâce à la politique sanitaire du pays, les Français ont atteint un point de rupture, au point de refuser parfois d'appliquer certaines règles. Élément de réponse avec le reportage de Faustine Calmel.
Isor traverse la rue, son masque noir sur le menton.
Il n'y a aucune preuve que ça aide en fait à l'extérieur. Et en plus, juste d'un point de vue humain et logique, c'est évident que c'est pas là où on est susceptible de se transmettre le virus le plus, quoi.
Quelques mètres plus loin, elle croise Manu. Lui a son masque accroché au poignet et il a développé des techniques pour éviter de se faire prendre.
Ma stratégie, c'est déjà de souvent avoir une cigarette à disponibilité, allumée ou pas, pour pouvoir effectivement m'absoudre de la nécessité de porter un masque. Il y a un effet de fatigue général, mais je suis fatigué depuis le début par cette situation et les mesures qui en découlent.
Un ras-le-bol qui fait que certains se plient plus difficilement aux règles sanitaires édictées par le gouvernement et qu'une certaine usure des Français se fait sentir, constate Jocelyn Rhode, chercheur en psychologie sociale de la santé.
On voit dans les situations de reprise épidémique qu'une grande partie des Français se réapproprient ces mesures, les remettent en application, mais on a bien ce phénomène de fatigue pandémique qui a été identifié par l'OMS, c'est-à-dire une réponse de la population qui est de plus en plus faible au cours du temps, donc une érosion lente en fait du respect des mesures.
Érosion encore accentuée dans le cas du port du masque dans la rue par le fait que plusieurs études montrent que moins de 10% des contaminations ont lieu en extérieur.
C'est une décision judiciaire que les victimes de la dépakine attendaient depuis longtemps. C'est aussi une première en France. La justice a déclaré aujourd'hui recevable une action de groupe contre Sanofi, concluant que le laboratoire n'avait pas respecté son obligation de vigilance sur les risques de la dépakine, les risques de malformation et de retard de développement des enfants, et ouvrant ainsi aussi la voie à des indemnisations. Le laboratoire Sanofi a toutefois fait appel de la décision. Après plusieurs jours de confusion, le procès du 13 novembre sur les attentats va enfin reprendre demain. Le principal accusé Salah Abdeslam, testé positif le mois dernier, a été considéré comme apte à comparaître de nouveau. Quand les GAFA s'intéressent de près à la voiture de demain, haute technologie embarquée pour assister par exemple à la conduite de la voiture, Apple et Google ont déjà noué des partenariats avec de grands groupes automobiles, et bien c'est au tour d'Amazon de planter son drapeau. Et ce sera avec le géant Stellantis qui rassemble PSA, Fiat Chrysler et Opel. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Amazon, acteur de la grande distribution, mais aussi en pointe sur les solutions informatiques pour les grandes entreprises. En clair, Laurent Kramer, la voiture de demain aura besoin besoin de beaucoup de technologies pour continuer à rouler.
Oui, et c'est une déferlante technologique qui n'a rien d'un gadget. Avec ce partenariat, les 14 marques de Stellantis bénéficieront du savoir-faire en intelligence artificielle, en stockage et utilisation des données développées donc par Amazon pour une intégration dès 2024. Construire cette voiture électrique interactive et connectée d'après-demain donc est une course de vitesse et une impasse aujourd'hui pour les constructeurs automobiles incapables seuls de se lancer dans cette course et d'espérer gagner ce pari technologique. Amazon apporte donc toute sa technologie à Stellantis et qui, comme tous les autres, essaie de développer des modèles connectés. Ce partenariat permettra aux voitures de communiquer avec la maison connectée, des profils d'utilisation, l'apprentissage, des habitudes de consommation. Certes, ouvrir sa porte de garage par commande vocale ressemble aujourd'hui à un gadget inutile, mais dans cette révolution annoncée des voitures connectées, puis à terme autonomes, la course entre tous les GAFA et les constructeurs est lancée, les possibilités technologiques sont infinies. Ce partenariat Stellantis-Amazon est donc une petite révolution, une mauvaise nouvelle pour les constructeurs européens aujourd'hui à la traîne.
Laurent Kramer, les services économiques de France Inter, et puis au chapitre Nouvelles technologies et politiques, ce meeting à venir du candidat Jean-Luc Mélenchon, un meeting qu'il promet immersif et olfactif, une première qui va permettre, selon les insoumis, de ressentir, je cite, des émotions et de se projeter dans ce monde d'après que nous appelons de nos voeux. Ce sera à Nantes le 14 janvier prochain.
Les directions l'Asie centrale, Sébastien, où le Kazakhstan est en pleine tourmente.
Oui, ce pays très autoritaire est depuis ce week-end l'objet de très nombreuses manifestations contre le doublement du prix du gaz et contre le pouvoir. 5000 personnes se sont notamment rassemblées la nuit dernière à l'est du pays, à Almaty, avec, selon le régime, des attaques violentes contre les forces de l'ordre. En face, le président kazakh se crispe et promet une réponse ferme. Retour sur ces troubles avec Bertrand Galichet.
Les rares images qui parviennent du Kazakhstan, malgré les coupures d'internet et le blocage de plusieurs réseaux sociaux, montrent des scènes paradoxales. D'un côté, des manifestations violentes dans la principale ville du pays, Almaty, où les forces de l'ordre ont été déployées en nombre ces dernières heures avec des blindés. Les protestataires qui réclamaient ce week-end une diminution du prix du gaz en scandant des slogans hostiles au pouvoir exigent notamment la mise à l'écart de Nursultan Nazarbayev. L'ancien président proche de Vladimir Poutine est resté l'éminence grise de l'État qu'il a dirigé pendant près de 30 ans. Des affrontements ont rapidement éclaté. On voit sur des vidéos des voitures de police retournées sur le toit et défoncées à coups de barres de fer. Les manifestants ont également investi le principal bâtiment administratif d'Almaty malgré les tirs de grenades lacrymogènes des forces de sécurité. Et parallèlement, des images de fraternisation entre la population et des policiers circulent sur les réseaux sociaux, notamment dans la ville d'Atiraou au bord de la mer Caspienne. C'est sans doute ce qui inquiète le plus le pouvoir kazakh qui a décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays en promettant de répondre le plus fermement possible à ce qu'il qualifie d'attaque massive contre les forces de l'ordre.
Bertrand Galichet de la rédaction internationale de Radio France. Ça va mieux en revanche pour Jair Bolsonaro, le président brésilien, hospitalisé en début de semaine pour une suspicion d'occlusion intestinale, a quitté aujourd'hui l'hôpital.
Et puis on termine avec des musées et des monuments français qui retrouvent peu à peu la lumière.
Oui, on le sait, la culture souffre de la pandémie depuis 2 ans, mais les musées et les monuments nationaux sortent enfin la tête de l'eau à l'heure de publier les bilans de fréquentation de l'an passé. L'optimisme et l'espoir sont de mise. Si on ne renoue pas avec les niveaux d'avant-crise, les visiteurs sont bien là, revenus en nombre dès la réouverture des établissements en mai 2020. Les précisions d'Amélie Perrier.
Le constat est le même que ce soit au Louvre ou au Mont-Saint-Michel. En 2021, le plus grand musée parisien a accueilli 2 800 000 curieux, mieux qu'en 2020, mais on reste loin des quasi 10 millions d'entrées enregistrées au Louvre en 2019. Les touristes asiatiques et américains manquent beaucoup à la Joconde. Au musée d'Orsay aussi, on se réjouit d'un rebond de 30% de la fréquentation par rapport à 2020, même si on a perdu plus de la moitié des tickets vendus en 2019. Même chose au musée de l'Orangerie, qui a profité du succès de l'exposition de David Hockney. Au centre Pompidou, ce sont les artistes femmes qui ont attiré la foule. 160 000 visites pour Elles font l'abstraction, quasi 300 000 pour l'américaine Georgia O'Keeffe. Quant à Joséphine Baker, elle est sans doute à l'origine d'un regain d'intérêt pour le Panthéon, 65% de visiteurs en plus l'an dernier. L'Arc de Triomphe a lui profité de son emballage par cristaux et Jeanne-Claude pour attirer plus de 500 500 000 personnes, presque 20% de hausse en un an. Des chiffres encourageants qui ne doivent pas masquer le manque à gagner par rapport à l'avant-pandémie. Des institutions sous perfusion d'aide publique. Le Louvre a ainsi touché l'an dernier en compensation 110 millions d'euros de l'État.
Les musées et les monuments qui revivent. C'était avec Amélie Perrier du service culture d'Inter.
Et merci beaucoup Sébastien Nogeni. À tout de suite, bien sûr, dans Sous les radars, ce sera dans une petite demi-heure. Vous nous parlerez notamment de l'achat très politique de Rome à Taïwan. Ce soir, avec François Hesbourg, on va parler de l'état de la démocratie américaine un an après le 6 janvier. Puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne, je vous le remets en tête. Un soda citron, garçon, s'il vous plaît, le mois de janvier sans alcool. Est-ce que vous vous lancez? Est-ce que vous passez votre tour? Nous sommes le pays ambivalent sur l'alcool, notre santé, notre culture, tout ça dans le même sac. Alors est-ce que vraiment, après ce qu'on vient de traverser, c'est le moment? Est-ce que oui, tester votre capacité à arrêter, précisément, pour revenir ensuite à une consommation d'alcool plus modérée, vous semble une bonne idée? Racontez-nous tout ça au 01 45 24 7000. La météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et avec Sébastien Léas, bonsoir à vous. Sébastien, la nuit s'annonce froide.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le froid s'accentue, les gelées étaient rares la nuit dernière, elles seront fréquentes la nuit prochaine. Seulement 1 degré attendu au petit matin à Biarritz et Paris, 0 pour Aix-en-Provence, moins 1 degré à Valenciennes, Caen, Vannes, Angers, Toulouse ou encore Dijon, moins 2 degrés à Grenoble et Tours et moins 3 degrés à Limoges, Mende et à Tarbes. Cette ambiance froide pourrait d'ailleurs rendre les routes glissantes, en particulier en Basse-Normandie. L'après-midi, les températures maximales seront aussi hivernales, de 3 à 10 degrés en général, avec 7 à 14 degrés sur les régions méditerranéennes.
Du soleil, mais arrivé aussi d'une perturbation par l'ouest.
Oui, la journée de demain commencera le plus souvent sous le soleil et les belles éclaircies, hormis entre le Grand Est, l'Orléanais, le Jura, l'Auvergne et le Dauphiné, qui garderont un ciel très nuageux, malgré ces grisailles assez imposantes, surtout le matin. Le temps sera quand même globalement sec. Quelques flocons pourront tout de même virevolter dès les premières hauteurs du relief. En Corse, la journée sera plus agitée, avec encore des averses régulières. L'après-midi, le soleil restera généreux sur les Alpes, des Pyrénées à la Touraine, au bassin parisien et au nord. Soleil aussi sur le pourtour méditerranéen avec toujours beaucoup de mistral et de tramontane. Et puis sur les régions du nord-ouest, après un début de journée lumineux, le ciel va se voiler de plus en plus à l'approche d'une perturbation. Cet épais voile nuageux va se propager l'après-midi jusqu'au Boulonnais, à la Normandie, au Pays de la Loire et puis la pluie abordera la Bretagne. Cette perturbation va ensuite s'enfoncer sur le pays durant la nuit et la soirée, la nuit suivante également, pouvant apporter un peu de pluie et neige mêlée, voire de neige seule en plaine entre le nord-est et le sud-ouest.
Sébastien Lias de Météo France, merci beaucoup Sébastien et à tout à l'heure après 19h.